Bonjour, bienvenue dans un monde où on crie, moteur, action, coupé, on crie et tout le monde au garde à vous, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose, structure pyramidale, hiérarchie militaire, plan de bataille parfaitement huilé qui ne souffrirait aucun pas de côté. D'un mot, on a dit stop, alors personne ne bouge et donc tout le monde attend et compte les secondes qui passent très lentement et pèsent très lourdement pour qui compte son argent. Sauf qu'ici, comme ailleurs, rien ne se déroule évidemment jamais comme prévu. Les plans, les budgets, les objectifs sont faits pour être explosé et alors on crie encore et encore plus fort. Ce monde, c'est l'envers du vôtre, de celui qu'on admire sur grand écran, celui qu'on imagine tranquillement lové dans le fauteuil d'une salle obscure. Les yeux écarquillés, on fait des O, des A, des O, qu'ils sont beaux ces acteurs. Ah, sublimes, les actrices, oula, magnifiques ces paysages. L'effort ne se voit pas, la sueur ne coule pas, ne déborde pas de la pellicule et c'est fait pour nous faire rêver, nous faire oublier ce monde qui est le nôtre. Mettre du chic dans le quotidien, du glamour dans le tous les jours, de l'extra dans l'ordinaire. Que la vie fasse son cinéma. Les artisans du 7e art sont là pour ça, pour qu'on s'extasie, tiens, par exemple, en ce moment même à Locarno, comme on se pâmera bientôt à Venise ou à Deauville. Oui, bientôt, mais pas ce matin, non, ce matin, bienvenue de l'autre côté de l'écran, bienvenue sur un plateau de tournage.
France Inter, dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Alors prenez ce qu'il vous faut dans la main pour vous sentir bien, ouvrez grand les yeux, grand les oreilles, laissez-vous porter, laissez-vous guider par notre invité de ce matin, le réalisateur, dramaturge et romancier Xavier Duringer. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez à la rentrée littéraire votre second roman, Making of, aux éditions du Passage. Votre passage au roman, lui, s'est fait relativement tardivement dans votre vie, mais pourquoi ? Qu'est-ce que la littérature vous apporte que ne vous offrirait pas le cinéma ?
Une liberté totale.
Ouais.
D'abord, j'ai attendu pendant pratiquement 30 ans avant de sortir mon premier roman. Sous Mato, ça m'a pris du temps. Pour moi, l'écriture littéraire, le genre littéraire, c'était quelque chose de relativement sacré. J'avais peur de m'attaquer à cette chose-là. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, beaucoup pour le cinéma, mais c'est vrai que écrire un roman, c'est quelque chose qui m'a obsédé pratiquement pendant 25 ans.
C'est s'affranchir des contraintes techniques, c'est s'affranchir aussi de la lourdeur d'une équipe. Vous parlez beaucoup de l'importance de l'équipe dans votre livre. Là, on est seul face à sa page blanche et on peut faire absolument ce qu'on veut quand
ouais,
on veut. Oui,
on est face à soi-même. C'est une mise à nu, c'est se mettre dans un état de vulnérabilité totale. Et puis c'est vrai de ne pas avoir de contraintes économiques. Quand on écrit un roman, il n'y a même pas de commande. On va écrire quelque chose comme ça qui va durer pendant 2-3 ans. Sans savoir si même le roman va être publié un jour. Donc c'est vraiment une mise à nu totale. Ouais. C'est être face à soi-même, sans contraintes économiques, production, de savoir ce qu'on doit ajouter, retirer. Voilà, on retrouve une liberté totale d'action.
Votre personnage principal, Paul Corso, est réalisateur. Il dit « J'en ai marre, je vais devenir écrivain, je vais arrêter ce métier à la con ». Est-ce que cette phrase pourrait être de vous ?
Ah oui, elle est complètement de moi déjà.
C'est ça. Hein, l'intrigue de Making of nous plonge sur un plateau de tournage dont on va suivre toutes les vicissitudes. Mais d'où elle vient cette envie d'écrire sur un tournage ? Est-ce que c'est parce que ce monde-là vous colle définitivement à la peau, qu'on s'en défait jamais vraiment ?
Ben, j'ai commencé à faire du cinéma en 93, donc avec La Nage Indienne, Gérald Laroche, Karine Viard et tout ça. Donc ça fait maintenant 25 ans que je suis sur des plateaux, que ce soit des plateaux de télé, des séries ou pour le cinéma. Et c'est vrai que j'avais envie de faire une sorte de making-of littéraire, de raconter finalement l'intérieur d'un tournage, quand on voit un couple faire l'amour, c'est ce que... et qu'on les trouve beaux, et qu'on pense que tout est facile et magnifique. Moi, je raconte ce qui s'est passé une heure avant cette scène-là, et une heure après. Voilà. Donc, c'est un petit peu, non pas pour dévoiler, en fait, tous les travers du cinéma, mais de raconter, en fait, toutes les rapports d'une soixantaine de personnes qui vont vivre ensemble pendant 2-3 mois, et de raconter tous les travers affectifs, émotionnels, les problèmes d'argent, les problèmes, je sais pas, de la négociation d'un acteur pour garder son caleçon pendant la scène d'amour, de l'actrice pour avoir une protection, et de tout ce qui va se passer finalement dans ce microcosme.
C'est l'ouvrir au reste du
voilà,
monde.
Voilà, de l'ouvrir en même temps, d'essayer d'en tirer aussi quelque chose à la fois de poétique et de drôle. Je pense que c'est un roman qui va travailler beaucoup du côté en fait de la comédie.
Alors oui, effectivement, c'est un tournage dantesque que vous racontez. On est toujours au bord de la catastrophe, voire complètement dedans. Donc effectivement, c'est absurde, c'est drôle, c'est toujours prenant. Et en même temps, j'ai trouvé ça personnellement assez mélancolique par endroits. D'où elle vient cette mélancolie ?
Elle vient en fait d'un premier tournage. En fait, c'est dans le roman, il y a une sorte de tiroir où on suit un tournage au présent avec tout ce qui se passe, et le personnage Paul Corso est relancé sur son premier tournage, en fait, sur 20 ans en arrière, et sur une histoire qui s'est passée, qui s'est mal passée avec son acteur principal. Et finalement, cette histoire revient toujours sans cesse. Et la mélancolie, elle vient aussi de toute... de cette idée dans la fin des années 80, années 90, de tous les acteurs qu'on a aimés, ces actrices qui ont complètement disparu aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'ils font aujourd'hui, alors que ça a été d'énormes stars, et finalement on ne sait plus où ils sont et ce qu'ils font aujourd'hui. Et le roman raconte cette chose-là, en fait, sur tous ces gens qui ont disparu. Et c'est vrai, quand je me retourne un petit peu et que je regarde les gens avec qui j'ai travaillé, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Voilà, le roman parle de ça.
Vous l'aimez, ce monde du cinéma ?
Oui, énormément, oui.
Et pourtant, on vous sent parfois un peu... En tout cas, je dis vous, parce qu'on vous confond parfois avec Paul Corso, évidemment, par endroits. Lui, on le sent très désabusé.
Mais on est forcément à un moment désabusé, parce qu'on se rend compte que c'est très, très difficile de faire des films. Un réalisateur sur deux ne refait jamais un deuxième film de sa vie pour le cinéma. Un sur trente, un troisième film. Parfois, il se passe 5 ans, 6 ans, 7 ans entre deux films. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que Corso fait souvent les films des autres et pas les siens. Et donc aujourd'hui, on a plus de facilité à faire les scripts que des producteurs vont vous offrir que de faire ses propres histoires. Et c'est là, même quand c'est pas mon histoire, quand je signe le film, je le réalise et je dois le porter sur mes épaules, alors que c'est pas forcément l'histoire que je portais en moi.
Alors, Making of, en revanche, c'est votre histoire. L'écriture reste très cinématographique, avec un sens du dialogue et de la séquence ciselée. Séquence où on croise un ancien tolard qui cherche à devenir acteur, mais refuse de dire ses répliques. Un producteur qui aime à photographier sa femme nue du fond de sa piscine. Une actrice qui souffre d'un baby blues sans enfant. Tous parfaitement névrosés, tous profondément amoureux de leur métier. En voilà un autre, d'ailleurs, passionné de cinéma, pour nous accompagner en musique. Il a commencé par les plateaux de tournage, avant de pousser la porte d'un studio d'enregistrement. Il s'appelle Orval Carlos Sibelius et chut, c'est à lui. Le cœur de verre d'Oscar Carlos Sibelius s'est mis à battre dans ce studio grâce à Elsa Béranger qui chaque matin vous flatte l'échine musicale. Et si vos doigts s'agitent, s'ils ont envie de battre autre chose que la mesure, prenez donc un clavier, écrivez-nous à danquelmondeonvie@radiofrance.com. Ça, c'est notre mail, vous l'aurez compris. On est là aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag danquelmondeonvie. Vous nous retrouvez sur Twitter comme sur Instagram et sur mes comptes perso aussi. On se glisse ce matin dans l'envers du décor, dans les coulisses du 7e art, en compagnie du réalisateur Xavier Duringer et de son roman Making of, qui raconte le tournage épique d'un film entre comédie et polar sur fond de maquis corse. Xavier Duringer, en exergue de votre livre, il y a cette phrase de Robert Bresson : cinéma, art militaire, préparer un film comme une bataille. Mais une bataille avec qui ? Contre qui ? Contre quoi ?
Contre tout, contre l'adversité. C'est-à-dire que chaque jour, c'est un nouveau challenge, c'est d'arriver à réunir, j'allais dire, les scènes, les pièces suffisantes pour que le puzzle, à la fin, soit complet. Donc, il peut tout nous arriver sur un tournage.
On se bat contre le temps et le temps, dites-vous. C'est-à-dire le temps qui passe et le temps, la météo, par exemple, c'est les deux ennemis principaux.
Exactement. Ouais. Le temps, parce que souvent, on a jamais le temps. Ouais. Et qu'il faut avoir tout préparé en amont pour être prêt au moment même de tourner. Donc c'est parfois d'une difficulté monstre. Et puis le temps qui fait, il suffit, je sais pas, vous commencez avec le soleil, il y a un nuage, on doit arrêter, la pluie, la tempête, le vent. Là, ça nous est arrivé, là, parce que je reviens d'un gros tournage, de choper la tempête en même pas 5 minutes. C'est-à-dire qu'on range tout. C'est voilà. Donc c'est se battre aussi contre les budgets, contre l'argent, de se battre aussi. Voilà. C'est un combat permanent, mais
Pardon, je vous en prie.
Non, c'est un combat permanent, mais en même temps avec beaucoup, beaucoup d'affectif, beaucoup d'émotionnel. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'artistique, de l'autre côté les techniciens. Les techniciens sont ensemble pour essayer finalement de serrer tous les problèmes et que tout le monde avance dans le même sens,
oui,
de faire le même film.
D'émotions qui circulent dans tout ça, évidemment, avec des moments de tension très vifs. Vous parlez de combat, on parle de tension. Évidemment qu'il y a des métiers autrement plus pénibles que ceux du cinéma et que ceux de la radio. On est bien d'accord, personne ne va à la mine. En attendant, c'est vrai que quand on lit votre livre, on est surpris par ça, par ce côté très rude des journées de tournage. Et puis ce côté effectivement militaire dont parle Bresson, c'est... Enfin, on se marre pas tous les jours sur un plateau de tournage, qu'on soit très clair.
Non, on se marre pas tous les jours, mais on peut se marrer et puis 5 minutes après, enfin voilà, la responsabilité de signer un film est dramatique. Vous avez un acteur par exemple qui bloque, qui a un problème avec son texte, qui ne comprend plus la situation, qui va bloquer complètement. Vous pouvez avoir des tensions comme ça absolument absolument terribles. Et il faut résoudre, en fait, moi on me pose environ entre 400 et 500 questions par jour où il faut avoir la réponse tout de suite.
Est-ce qu'il y a pas des moments où vous avez envie de hurler, je sais pas?
Souvent, on peut dire je sais pas, oui, je sais pas. Mais c'est vrai que toutes ces questions, ça peut être de la couleur des chaussettes, de est-ce qu'on met une nappe sur la table, de quelle couleur tu la veux la nappe, est-ce qu'elle déborde un petit peu, et les verres tu les préfères comme ci ou comme ça. Enfin voilà, et puis pour il va falloir changer de costume pour l'acteur, et puis les cheveux, et puis la taille de la barbe, et puis donc c'est des détails infinis, sans arrêt répétés tous les jours. Et c'est vrai que ça peut créer à certains moments des tensions, parce qu'il y a la responsabilité aussi du réalisateur. Moi, j'avais mon professeur d'art dramatique, Robert Cordier, qui disait, voilà, si le film est bon, ce sera grâce à tes acteurs, s'il est mauvais, ce sera de ta faute. Donc il y a cette responsabilité qui est là tous les jours, et tous les jours, il y a quelque chose qui peut se passer, où le film peut à un moment tomber, se liquéfier. Vous pouvez avoir un acteur qui prend l'eau. Chéreau, il disait, voilà, quand ton acteur coule, si t'es pas là avec une perche pour le relever, il perd la confiance qu'il a en toi. Donc ça peut être très difficile, et on peut perdre comme ça, à chaque instant, en fait, la confiance même de ses acteurs ou de ses techniciens.
Puisqu'on perd, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'où la pression aussi que vous avez tous les jours sur un...
Beaucoup d'argent.
Un tour. En l'occurrence, la photo que vous avez choisie pour notre immersion matinale, Xavier Duringer, on est aux antipodes, en tout cas quand on la regarde, de ce qu'on raconte là. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, il s'agit d'une photo du tournage que je viens de faire en Thaïlande, d'un film qui s'appelle Paradise Beach.
Qui sortira au printemps 2018, c'est ça ?
qui sortira, j'espère, au printemps 2018.
Si Dieu veut.
Et on voit un acteur Pichai et une actrice Sonia, qui est une actrice thaïlandaise. Elle est en robe sur un petit tabouret. À côté de lui, son frère dans le film est un policier. Donc il est en uniforme. Ils sont assis. Elle regarde son téléphone portable. Lui regarde en fait la personne qui est en train de le photographier. Et sur les côtés, en fait, on est sur une plage de Thaïlande. Et sur les côtés, il y a deux techniciens qui tiennent des parasols pour les protéger du soleil. Et voilà.
Et pourquoi cette photo-là?
Parce que d'abord, j'en ai proposé plusieurs parce qu'elle est.
Et on vous les a toutes rejetées.
Ouais. Je trouve qu'elle a. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose d'amusant dans cette photo et qui raconte aussi le cinéma. C'est le temps d'attente sur des mises en place pour les plans. Et donc parfois il faut attendre une demi-heure, une heure, parfois même plus longtemps. Et donc là, on est sous un soleil cramant avec 40 degrés à l'ombre. Et donc il y a les petites païennes, c'est-à-dire les petites serviettes fraîches qui circulent. Mais c'est vrai que voilà, sur cette plage-là, il y a ces deux techniciens avec deux parasols comme ça qui tiennent les parasols au-dessus d'eux. Et je trouvais que la photo était assez drôle.
Voilà. Quant au générique de notre immersion matinale, très important le générique évidemment, vous Xavier Duringer, vous avez choisi ça. Pick up the phone, Travis Scott et Young Thug. Pourquoi ce titre-là, Xavier Duringer?
Écoutez, quand on a tourné, Paradise Beach, on a tourné vraiment à Phuket et à Patong et dans des endroits, j'allais dire assez chauds, dans des gogos, dans des endroits où jamais en fait on a pu poser une caméra, même. Même Seth Gecko qui joue dans le film, qui est
oui,
un rappeur, qui vit là-bas.
Il y a pas mal de rappeurs qui figurent dans la distribution du film.
Et qui a un bar, il a jamais pu poser sa caméra dans Patong parce que c'est vrai que c'est une sorte de bordel organisé. Et quand on était dans le gogo, en fait, au moment des dialogues, les gogos, c'est en fait des filles qui dansent sur des podiums, et qui sont là un peu déshabillées. Donc, on a recréé en fait nos gogos avec nos danseuses, avec nos actrices, avec nos acteurs, et on remettait toujours cette musique-là pour que les danseuses soient toujours dans ce rythme-là avec les acteurs. Et au moment des dialogues, on arrêtait cette musique. Et donc, les filles continuaient de danser, bien sûr. Et puis, les acteurs pouvaient commencer à jouer la comédie. Et donc, on remettait toujours ce morceau de Travis Scott et de Young Thug. Donc, dès que je l'entends, en fait, ça me relance directement là-bas. Donc, c'était quelque chose de... Il y avait ce morceau-là et un morceau de 50 Cent. Et donc, c'était les deux morceaux qui nous ont accompagnés pendant tout le tournage, puisque, en fait, les créations musicales vont pouvoir se faire après. C'est après qu'on va retravailler la musique, mais il fallait avoir ce rythme qui est un rythme un peu à la fois dansant, un peu mélancolique, un peu dance et qui permet en fait d'avoir vraiment énormément de sensualité à l'image.
Alors on va s'éloigner de la Thaïlande pour revenir en Corse, là où se passe le tournage de votre livre Making of, évidemment tournage inspiré de vos propres expériences où on croise toute une galerie de personnages. Il y a par exemple le chef Hop Sherman qui a été b-boy, rappeur donc avant de devenir Guevara sandiniste. Il y a aussi le premier assistant Norbert, ex-punk qui porte aujourd'hui la soquette à mi-mollet, ou bien Slim, ancien gangsta, grand fumeur de ganja qui est aujourd'hui perchman. La réalité c'est ça, Xavier Duringer, il faut avoir un pet au casque pour être sur un plateau de tournage.
Ce qui est assez drôle, c'est que sur maintenant, je sais pas, 25 ans de tournage, je me suis aperçu que tous les gens de cinéma étaient des gens qui étaient un peu borderline. Qui étaient des gens
à la marge,
comme dit Godard, c'est la marge qui fait tenir la page. Mais d'avoir cette...
Mais pourquoi c'est...
Je sais pas. Il y a cette chose comme ça d'être dans le cinéma, c'est-à-dire vraiment d'être une équipe. C'est une alchimie. Vous avez des gens à la lumière, des gens au son. Vous avez des gens qui viennent d'univers complètement différents. Et c'est vrai que souvent, en parlant avec mes techniciens, c'est des gens qui sont toujours venus finalement de mondes un peu parallèles, qui rejetaient finalement le système pyramidal de travailler dans une société avec un patron, avec une chose, et qui vont se retrouver en fait sur un tournage avec exactement le même système, c'est-à-dire un général avec des chefs de poste et puis avec les assistants et puis les petits stagiaires, enfin voilà. Mais c'est vrai que moi, sur mes plateaux, mes techniciens, oui, certains viennent du punk, certains viennent...
Vous comparez une équipée de pirates de toutes couleurs et toutes confessions qui passent de navire en navire. Vous en parlez comme des mercenaires du 7e art et vous le dites là au milieu. Il y a le réalisateur. Alors, le réalisateur, comment il se situe ? C'est le capitaine des névroses ou c'est celui qui est là pour calmer les névroses de...
Non, mais ils sont tous. Ils sont pas névrosés, ces techniciens-là. Ils sont...
Les techniciens, non, mais il y a un quota névrose, toute profession confondue sur un plateau de tournage qui m'a l'air un petit peu
élevé. Oui.
Bon, peut-être un peu plus élevé que la moyenne.
C'est un making-of, hein. Donc on rentre en fait, j'allais dire, derrière les cloisons, on est une petite souris, on passe un petit peu partout. Mais c'est vrai que le réalisateur, finalement, c'est celui qui connaît le moins le cinéma. Parce que vous avez un réalisateur va faire, au mieux, il va faire un film tous les 3-4 ans. Vos techniciens, eux, n'arrêtent pas de faire des films, ils vont faire 3-4 films par an. Et donc, souvent, le réalisateur, souvent aussi avec des premiers films, c'est celui qui connaît le moins l'organisation, en fait, d'un plateau, et qui va devoir... je compare ça souvent à un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, en fait, il va moins bien jouer du piano que le pianiste, moins bien jouer du violon que le violoniste, mais il connaît la musique. En tout cas, il essaye de donner aux autres, finalement, le sentiment de cette rythmique, de cette vision qu'il a, comme ça, de la partition ou d'un morceau de musique. Donc, chacun de ses techniciens et de ses musiciens est meilleur que lui, mais lui, c'est de les réunir tous ensemble, de faire cette alchimie pour que, finalement, on puisse avoir cette... que la musique puisse éclater. Et c'est ça, en fait, le metteur en scène. Metteur en scène, il doit combiner, en fait, des énergies complètement différentes en étant celui, finalement, qui a la vision de son film. Et quand chaque technicien, finalement, lit un scénario, quand vous lisez un roman, vous allez avoir des images complètement différentes et il faut absolument que le réalisateur mette dans la tête de chacun de ses techniciens ses propres images et non pas que chacun dise « Ah, mais moi, je voyais ça comme ci, comme ça. » Donc, c'est aussi un combat,
tout ça. Alors, ce métier, vous l'écrivez, c'est une course de bébé tortue parce qu'il faut, je vous cite, un sortir du sable de l'anonymat, mais aussi ramper sur la plage en évitant les mouettes rieuses, les critiques et autres goélands, les décideurs, pour finalement rejoindre l'immensité sombre de la création où chaque seconde, un nouveau danger pouvait surgir. Listen, seeing you got ritualistic. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passive with the things you say.
passing up on my always. I can't blame you, no. No.
Drake, Passion Fruit, titre extrait de son dernier album où il nous dit qu'entre autres c'est dur à distance d'instaurer la confiance. Et ben vous savez quoi? Non, non, ils ont beau être loin derrière la vitre de ce studio, j'ai confiance. Oui, Alice Berger à la technique ce matin, Romain Imbertech à la réalisation, Valentin Pérez et Johanna Hébert-Moïdé à préparer cette émission assistée d'Elisa Bondarenko et de Rose Bernard sur les réseaux sociaux.
Dans quel monde on vit? Julia Boyce sur France Inter.
Xavier Duringer fait son making of ce matin, nous prenant par la main pour nous faire découvrir le monde du cinéma côté pile, côté tournage, côté technique et puis bien sûr côté acteur. Vous écrivez, réaliser c'est détourner, mentir, violer, voler les acteurs, les trahir, les aimer, les haïr. C'est aussi passionnel, aussi ambivalent que ça, le rapport entre un réalisateur et ses acteurs. Déjà quand on dit c'est...
Je pense qu'il y a vraiment de ça avec les acteurs, mais chaque acteur est différent. C'est-à-dire qu'on ne parle pas... Il y a des acteurs d'ailleurs à qui on ne parle pas. Et puis il y a des acteurs à qui on va beaucoup parler.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui n'ont pas besoin d'être dirigés, ou très très peu. Et puis d'autres qui ont besoin d'énormément de précision. Il y a des acteurs qui vont être des instinctifs. Et puis vous allez avoir des acteurs un peu cérébraux, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de répétition. Et puis des acteurs qui vont se lancer tout de suite.
Donc le réalisateur, c'est quoi? C'est une éponge qui doit sentir qui il a en face et s'adapter
en
fonction.
Si vous avez un acteur qui a besoin d'amour et que vous lui mettez des coups de pied au cul, ça va pas
ça
aller.
Ça marchera pas.
Et celui qui a besoin de coups de pied au cul, si vous lui donnez de l'amour, ça va pas aller non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment distribuer en fait le regard d'une manière très 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 précise. Et puis éviter. Vous savez, un tournage, en fait, il y a le moment du tournage, mais il y a l'en dehors aussi du plateau, qui est aussi important finalement que le plateau lui-même.
Donc, et Corso, votre réalisateur, dit que surtout, il ne faut jamais manger avec les comédiens, il faut manger avec les techniciens, c'est vrai ça?
Ça, c'est un conseil que j'ai eu d'un grand réalisateur qui m'avait dit, ne va jamais déjeuner avec tes acteurs, parce qu'ils ont besoin de savoir comment ça s'est passé, comment ça va se passer l'après-midi. Alors que déjeuner avec vos techniciens, vous allez pouvoir préparer les choses ensemble, et de préparer ça. Et puis si vous déjeunez avec un acteur et puis l'autre qui est un petit peu, il y a des problèmes d'ego, pourquoi il déjeune avec lui, qui déjeune pas avec moi, qu'est-ce qu'il... C'est pour éviter ça, mais bon, moi le soir, tous les soirs j'étais avec mes acteurs, c'est pas un problème, mais le midi, au moment du tournage, oui, je préfère déjeuner avec mes techniciens, oui.
Votre panthéon personnel d'acteurs flotte d'une page à l'autre de votre roman, vous citez Jean Reno, Al Pacino, Ryan Gosling, Gérard Depardieu et Patrick Devers, entre autres. Alors on va se faire plaisir, on va les entendre un peu.
J'ai pas l'habitude d'arrêter les missions en cours, moi. Alors on va rien appeler du tout. Et on va la finir, cette mission. Sinon je te le dis sous la gueule, c'est clair.
If it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, you are going down.
You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens a minute either side of that, and you're on your own. Do you understand?
Tu sais que t'en deviendrais presque désirable.
Lève ta main.
Quelle main?
Enlève ta main, vieux pédé.
Oh, y a pas de honte.
C'est pas une question de honte. C'est une question d'envie. Moi, justement, j'ai pas envie.
Mais t'en sais rien. Un truc que tu connais pas, tu peux pas savoir si t'en as envie ou pas.
Tu crois quand même pas que je vais m'exciter pour ta gueule, non?
Le Gros GG, évidemment, que vous aurez reconnu. Je dis le Gros GG parce que c'est comme ça que vous l'appelez dans votre livre, Xavier Duringer. Les actrices, en revanche, en prennent un petit peu pour leur grade. Vous écrivez, il y a trois sortes d'êtres humains, les hommes, les femmes et les actrices, mais encore.
Bah, c'est une joke, attendez. C'est,
bien sûr.
C'est une joke dans ce roman. Non, mais c'est vrai que l'actrice, elle est deux fois plus, j'allais dire, elle doit être à la fois féminine, à la fois c'est une actrice, elle est dans la séduction. En fait, la séduction, c'est pratiquement son fonds de commerce sur un plateau.
Mais l'acteur aussi.
L'acteur et l'actrice se gèrent de deux manières différentes, j'allais dire pour moi, hein, en tout cas. Je ne gère pas les actrices et les acteurs de la même manière.
D'accord. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai souvent énormément d'amitié, j'allais dire, d'amitié très très forte avec mes acteurs. D'ailleurs, la plupart de mes acteurs, j'ai travaillé avec eux j'ai une fidélité avec mes acteurs. Avec les actrices, ça va être j'ai besoin d'être à la fois admiratif de mes actrices. J'ai souvent des actrices à peu près du même type, c'est-à-dire des femmes que je peux mettre au milieu des hommes et qui vont savoir se démerder partout. J'aime cette masculinité, cette féminité en même temps. J'aime ces voix un petit peu gouailleuses. J'aime ces actrices un peu populaires. Et voilà, j'ai un rapport avec mes actrices qui est différent, je ne peux pas vous dire, qu'avec mes acteurs. Mais les actrices que je choisis, c'est souvent des... Là, j'ai Mélanie Doutet, Fleur Buenaventura qui m'ont suivi là en Thaïlande. J'ai souvent, en fait, envie de prendre des actrices que je pourrais emmener autour du monde. Je vais pas me poser la question.
Alors, en l'occurrence, c'est un acteur que vous avez invité à nous rejoindre ce matin, Toufik Jalab, bonjour.
Bonjour.
On vous a vu tout récemment dans Le Dernier Clapiche, Ce qui nous lie. Vous avez été repéré par le grand public avec La Marge de Nabil Ben Yadir. Et là, vous rentrez vous aussi de Thaïlande, vous venez de tourner avec Xavier Duringer ce tout dernier film. Vous étiez à Phuket donc. Il est comment, Duringer, réalisateur?
Comment il est?
Ouais.
Bah, il est en face de moi, je vais dire des choses gentilles.
Bien sûr.
Non, c'est un réalisateur qui est extrêmement exigeant, qui a un sens du détail qui est assez troublant et puis qui ne lâche pas. Quand on est acteur avec Xavier Duringer, c'est avant tout l'exigence.
Est-ce que vous êtes de ceux à qui on ne parle pas ou est-ce que vous êtes de ceux à qui il faut parler?
Je sais pas. Je crois que je suis de ceux qui aiment avoir une forme de liberté, mais comme le disait Xavier, le chef d'orchestre, il est là et j'aime écouter avoir un petit signe de loin avec une petite baguette où je sens que c'est à peu près la bonne note.
Est-ce qu'il y a une forme de volupté à se laisser faire par un réalisateur, ce qu'il vient de chercher en vous, qui révèle des choses que peut-être vous ignoriez, ou est-ce qu'au contraire ça peut être douloureux?
Je sais. Je crois que la douleur à l'intérieur d'un film, dès qu'il s'agit de remuer les sentiments et de plonger un peu plus profond dans l'âme, c'est toujours un peu douloureux. Ensuite, il s'agit pas de se faire non plus mal. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose, c'est un métier à part. On l'a choisi, on sait où on met les pieds et parfois se laisser aller, c'est parfois dans la douleur qu'on trouve du plaisir.
Vous écrivez, vous Xavier Duringer, que filmer rend tout puissant. Est-ce que c'est grisant, cette toute puissance, ou est-ce qu'elle peut faire peur?
Ça peut faire peur, parce qu'à un moment, il faut tenir aussi ses plans. On peut avoir tendance à vouloir en rajouter, comme les acteurs d'ailleurs, c'est-à-dire de taper des impros, de faire ça, et c'est de pas être non plus absorbé par ses décors, par exemple. Il y a énormément de dangers au moment de filmer.
Et la toute puissance dans la relation avec l'acteur et l'actrice.
Oui, c'est pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça du dramaturge qui va essayer de sentir, de respirer les acteurs, d'être tout puissant, parce qu'on peut les amener, en tout cas, essayer de dépasser à chaque fois les limites et de les amener autre part, finalement. Et même autre part que ce qu'ils avaient imaginé. Ouais. C'est-à-dire de les emmener, vous les emmener dans votre univers. Donc, il y a quelque chose où moi je sais. Toi, tu crois savoir ça, mais moi, je sais. Et donc, il peut y avoir cette toute-puissance, mais comme l'a dit Toufik, il faut laisser aussi un maximum de liberté dans un cadre défini.
Paul Corso, le personnage principal de votre making-of, fonctionne à l'instinct pour choisir ses acteurs. Il boit un verre avec eux, une demi-heure, et hop, il sait si ça va le faire ou pas. Ça pourrait vous ressembler, ça, Xavier Duringer?
Complètement.
C'est vous ça ?
Ah, complètement. Quand à des essais, d'ailleurs, la plupart des acteurs qui étaient sur mon plateau n'ont pas passé d'essais. Les essais, c'est vraiment pour rassurer les producteurs, les distributeurs ou les chaînes. Et moi, j'ai vu les acteurs sur des plateaux, je les ai vus jouer, je les rencontre. Voilà, je sais, je les respire, je les sens.
Et racontez-nous votre première rencontre, Toufik Jalab, avec Xavier Duringer. Ça s'est passé comment ?
Ça s'est passé dans un bar.
Et vous dites ça avec une voix ténébreuse, hein, Pierre Noir. Très bien.
Dans un bar à gogo dans Paris, je vous cacherai le nom. Non, c'était dans un bar à Saint-Germain. Il m'avait donné rendez-vous. C'était un peu mystérieux. Moi, je préparais un autre film. C'est très difficile quand on prépare un film, quand on est acteur, on se plonge vraiment à 100% dans le projet. Et puis de parler d'un autre projet alors qu'on n'a pas encore entamé celui sur lequel on est engagé, c'est toujours un peu difficile. Sauf que Xavier, c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis très longtemps. J'avais travaillé sur ses textes, moi, à l'école de théâtre. Il faisait partie de ceux qui m'avaient aussi donné envie de faire ce métier.
Mais ça doit être encore plus impressionnant, non, j'imagine ?
Non, c'est pas impressionnant, c'est hyper hyper motivant, c'est quelque chose de, enfin moi je mets pas de pression à ce niveau-là, j'ai pas de mal à travailler ou en tout cas à parler avec les gens pour qui j'ai beaucoup de respect, bien au contraire. Et du coup, on s'est parlé puis on avait plein de points communs, la banlieue, l'amour du théâtre, l'amour des femmes, l'amour du cinéma.
Tout de suite.
Non mais on avait plein de points communs et puis je parlais à un auteur surtout et quand on parle à un auteur on parle plus qu'à un réalisateur, on parle à un créateur vraiment, il fait l'homme et la femme dans le couple, il donne naissance à ce projet là.
C'était quoi être acteur dans vos rêves de gamin ?
C'était jouer Cyrano de Bergerac.
C'est vrai ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce qu'il symbolise tout ce que j'aime chez l'homme. La force, le panache, l'épée, la timidité et l'amour des femmes.
Et on y revient, décidément. Et il incarne quoi pour vous, Toufik Jalab, Xavier Duringer ? Qu'est-ce que vous avez projeté sur lui ? Qu'est-ce que vous avez imaginé de lui ?
Déjà, c'était deux choses, c'est qu'il fallait que je trouve deux frères. Et le frère que j'avais, c'est un acteur extraordinaire qui s'appelle Sami Bouadjila et qui a le rôle principal du film. Et il fallait que je trouve son frère, c'est les deux rôles du film. Et dès que j'ai vu Toufik, il y a eu quelque chose comme ça, une évidence. Et je peux raconter une anecdote absolument extraordinaire. On est dans un bar à Bastille. Je suis en train de dire à Toufik qui va faire le rôle. On va partir en Thaïlande ensemble. Et à ce moment-là, par hasard, Sami Bouadjila rentre dans le bar. Ce qui était absolument pas prévu. Et donc, le hasard étant une loi qui voyage incognito, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et j'ai su à ce moment-là, vraiment, je l'ai ressenti au plus profond de moi, que le film allait se faire.
Alors, c'est les mots d'un des grands maîtres du cinéma, Robert Bresson, que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Xavier Duringer. Le texte est extrait de ses notes sur le cinématographe. Il est lu par Laetitia Gaillet.
Pronti. Motore.
Partito.
Ciak.
21 prima.
Azione.
Monter un film, c'est lier les personnes les unes aux autres et aux objets par les regards. Deux personnes qui se regardent dans les yeux ne voient pas leurs yeux, mais leurs regards. Mon film naît une première fois dans ma tête, meurt sur papier, est ressuscité par les personnes vivantes et les objets réels que j'emploie, qui sont tués sur pellicule, mais qui, placés dans un certain ordre et projetés sur un écran, se raniment comme des fleurs dans l'eau. Ce qu'aucun œil humain n'est capable d'attraper, aucun crayon, pinceau, plume de fixeur, ta caméra l'attrape sans savoir ce que c'est et le fixe avec l'indifférence scrupuleuse d'une machine. Un soupir, un silence, un mot, une phrase, un vacarme, une main, ton modèle tout entier, son visage au repos, en mouvement, de profil, de face, une vue immense, un espace restreint, chaque chose exactement à sa place, tes seuls moyens. Il ne serait pas ridicule de dire à tes modèles « Je vous invente comme vous êtes ». Tournage, s'en tenir uniquement à des impressions, à des sensations. Pas d'intervention de l'intelligence étrangère à ces impressions et sensations. Pouvoir compter les images aplaties d'être autres ce qu'elles sont. La même image amenée par 10 chemins différents sera 10 fois une image différente. Ni metteur en scène, ni cinéaste. Oublie que tu fais un film.
Stop!
Bene, vai, buona vista.
Je vous vois sourire, Xavier Duringer. Ces mots de Robert Bresson, ils vous accompagnent dans votre travail?
Oui, en fait, parce qu'en 93, quand j'ai fait mon premier film, La Nage indienne, j'ai eu un cadeau de mon ingénieur du son, Claudine Nougaret, qui est la femme de Raymond Depardon, et qui m'a... C'était mon premier film, je connaissais rien du tout, sauf la mise en scène au théâtre, et elle m'a offert Notes sur le cinématographe. Et j'ai lu ce livre, et chaque phrase me questionnait. Et il y avait une phrase qui m'a questionné encore plus que les autres, c'est « il faut savoir commander aux éléments ». Et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre cette phrase, ouais. Et maintenant je l'ai complètement assimilée, il faut savoir commander aux éléments.
Alors on est parti en Thaïlande, on est passé par la Corse, où Paul Corso essaye de commander les éléments. On part maintenant à Saint-Tropez, sur ces plages abandonnées, avec l'icône ultime du cinéma français, Madame Bébé, s'il vous plaît.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Brigitte Bardot, La Madrague, titre culte de 62 qui nous emmène droit vers l'été.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Mais oui, où êtes-vous au moment où on se parle ? Que faites-vous l'été ? Avez-vous le souvenir d'un été particulier, un moment clé, un instant T, où peut-être tout a basculé ? C'est une rencontre, c'est un paysage, c'est ce que vous voulez, mais surtout, racontez-nous, appelez-nous au 01 56 40 55 35, déposez vos souvenirs sur notre boîte vocale. Et ce matin, attention, Vanna de Bâle, c'est Plouf qui jette à l'eau.
Bonjour, je m'appelle Plouf, j'ai 35 ans, et l'été particulier que je voulais vous raconter, c'était pour moi l'été 2003. Alors comme beaucoup le savent, à l'été 2003, il a fait très 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 chaud, et moi je l'appréciais plutôt bien cette chaleur, parce que c'était un bon prétexte pour lézarder à la maison toute la journée et ne sortir que le soir. Cet été-là, je me suis rapproché de ma première petite amie que j'avais rencontrée pendant l'hiver, avec qui j'avais rompu pendant l'hiver. Donc au début de l'été, j'ai vu qu'elle avait un petit peu changé, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Elle s'était fait couper les cheveux, ça lui allait plutôt bien. Elle avait aussi pris pas mal de poids, mais ça lui allait plutôt bien aussi. Et puis donc, on n'a pas dit à tout le monde, mais on s'est plus ou moins remis ensemble. Et on a passé pas mal de temps ensemble, dans des fêtes, avec des copains, dans des petits festivals, des trucs comme ça. Dans la campagne, dans le Béarn, des trucs sympas. Il y a eu une fois où on a fait l'amour dans des vignes à côté d'un festival. Il y a eu une fois où on s'est baigné dans une fontaine municipale. Voilà, c'était plutôt chouette. Elle est repartie à la toute fin de l'été. Et ce que je savais pas, c'est que si elle avait pris un petit peu de poids, c'est parce qu'elle était enceinte, en fait, d'un enfant qui était 2 mois, puisque on l'avait fait la première fois qu'on était ensemble à l'hiver. Bon, sur le coup, ça m'a fait un petit peu bizarre, hein, le fait qu'elle me l'ait pas dit et que je me retrouve pas comme ça d'un seul coup. Mais passé le choc et passé quelques années, en fait, on s'est à nouveau remis ensemble en 2005 et on est toujours ensemble depuis. On s'est mariés un autre été aussi. Voilà. C'était pour moi l'été 2003. À bientôt.
Mais les canons, cette histoire, moi je valide, je sais pas vous, mais
plouf,
scénaristiquement parlant, on est bien, non, Xavier Duranger ?
Ouais, très bien.
On est bien. Alors, on va pas spoiler, comme on dit, mais vous aimez bien des histoires qui se terminent à peu près bien. Vous écrivez dans Making of, pleurer de joie, la plus belle fin de film pour un cinéaste. Pourquoi ?
Pourquoi ? J'aime beaucoup cette chose comme ça en sortant d'un film où on va pleurer parce que l'émotion est tellement grande et que c'est pas, on ne pleure pas en fait pour de la tristesse, mais on pleure parce qu'on croit encore un petit peu en l'humanité. Et qu'on croit encore un petit peu en l'homme. Et à partir de là, c'est la plus belle émotion que je puisse avoir en sortant d'un film, c'est de rester complètement scotché dans un café, en face d'une personne, et puis d'être là, et pendant une demi-heure, rien pouvoir se dire. Parce que le film, on se le repasse encore. Et en fait, un film vit dans l'invisibilité des choses, il vit avec le temps. Et cette notion comme ça de pleurer, je sais pas si quand à la fin La vie est belle de Capra, quand je pleure de joie. Et il suffit que je me remémore les choses, je peux me les remémorer pour avoir tout de suite les larmes qui montent dans les yeux, c'est incroyable.
Alors vous allez peut-être me faire monter les larmes aux yeux avec ce que vous nous avez ramené ce matin, c'est un objet qui raconte pour vous un été particulier, vous êtes en train de l'extirper de votre t-shirt, vous le sortez, là on l'entend un peu.
Ouais. En fait, non, je voulais vous ramener ça parce que c'est le dernier tournage et c'est une médaille et c'est un Ganesh. Et donc, avec le Om derrière, et le Ganesh est le dieu éléphant et qui protège à la fois les artistes, les écrivains et la famille.
Et on vous l'a offert dans quelles circonstances ?
Il m'a été offert sur le tournage. En fait, il y a une chose comme ça en Thaïlande, c'est qu'il y a un rapport à l'invisible, au sacré, qui est beaucoup plus... j'allais dire, beaucoup plus important dans la vie des gens. Et dès le premier jour de tournage, on s'est tous retrouvés avec les acteurs, les techniciens, devant un Bouddha qui avait été ramené comme ça du temple, où en fait, c'est très important pour l'équipe thaïlandaise de pouvoir en fait bénir le tournage et se protéger. Dès que vous tournez dans un endroit différent, vous allez remercier les dieux. Et c'est vrai que ce Ganesh m'a été offert finalement pour protéger aussi, me protéger et protéger le tournage.
Est-ce que vous pouvez me le passer, s'il vous plaît ?
Bien sûr.
La table est très grande, donc ça va prendre quelques secondes. Hop là, ça y est, je l'ai. Et donc vous portez ça tous les jours autour du cou. C'est un peu lourd quand même, non ?
C'est un peu lourd, là
Seth Gecko apprécierait certainement, non, ça j'imagine bien. Mais...
il a beaucoup de quincaillerie. Mais en même temps, là, il y a deux Bouddhas, c'est-à-dire deux petits Bouddhas
ouais.
Praking, qui sont des Bouddhas Praking. C'est des Bouddhas, quand vous les remuez comme ça, ils sonnent à l'oreille parce qu'il y a un petit mantra, c'est-à-dire une petite prière qui a été glissée et scellée à l'intérieur du Bouddha et qui agit. Et ce qui est magique, en fait, dans ces Bouddhas Praking, c'est que vous ne savez pas, en fait, quelle prière a été mise pour vous. Et là, dans les deux petites pièces que vous avez, il y a un petit Bouddha qui a plus de 200 ans.
Oui.
Et il y en a un autre qui a à peu près mon âge. Voilà.
C'est très très beau. En tout cas, évidemment, on va retrouver votre pendentif vendredi dans la chronique Le Pêle-Mêle d'Alexandre Comté dans quelques minutes en photo sur notre Instagram. Mais vous, est-ce que vous êtes superstitieux, Toufik ? Est-ce que vous aussi, vous avez des gris-gris comme ça des...
Moi, non, pas du tout.
Rien du tout.
Non, pas du tout. Je ne sors pas de chez moi juste le vendredi 13.
Ah voilà. Mais voilà, à part ça, tout. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc le collier, en fait, vous en foutez.
Il a beaucoup de valeur, alors Non, non, j'ai été pendant longtemps, après avoir vu Rain Man, j'ai eu deux, trois petits tocs. Je ne marchais pas sur les... Enfin, j'essayais d'avoir...
Sur les allumettes.
Sur les allumettes. Non, dans la rue, j'évitais les traits, les striures, les... Il fallait que je marche sur un endroit plat sans...
Mais il y en a beaucoup des traits, vous savez.
Oui, et je mettais beaucoup plus de temps pour faire un trajet.
Mais pourquoi? Vous aviez peur d'être avalé par des crocodiles?
Je ne sais pas, il y avait quelque chose de, où je me disais que ça pouvait mettre fin à ma vie.
Ah oui. Ah, vous êtes du genre nuancé et modéré, vous.
Voilà, exactement. Mais moi, quand je fais les choses, je les fais à fond.
Évidemment.
Et puis, quand j'ai arrêté...
Comme l'amour des femmes, d'ailleurs.
Oh là là.
Ça fait trois fois que tu le dis. Hein,
c'est obligée. Vrai. C'est incroyable. Oui, j'étais obligée. Franchement, j'étais obligée. Et vous avez des trucs sur un tournage pour vous mettre en confiance, des rituels qui vous permettent de vous jeter à l'eau en vous disant, voilà, ça c'est fait, ça va aller.
Je fais des étirements, un peu de yoga le matin.
Ah bon?
Et j'essaye de faire 100 pompes.
Hein, je vous imagine pas. Pardon, les pompes, ça va, j'imagine, mais le yoga.
Non, en fait, les 100 pompes, c'est quand il a une scène torse nu qui doit faire 100 pompes.
Non, mais les pompes, j'imagine.
Les muscles un peu.
C'est le yoga que j'imagine, moi. Bon, et ben, comme vous n'êtes pas superstitieux, on peut vous dire merde pour la suite. À vous, Toufik, et puis vous, on vous souhaite un bel été, Xavier Duringer. Xavier Duringer, votre livre Making of fera la rentrée littéraire avec les éditions du Passage. Vous, Toufik, c'est dès demain que ça se passe avec la sortie en salle de Lola Pater, un film de Nadir Moknesh, où vous partagez l'affiche avec Fanny Ardant, projeté hors compétition à Locarno cette année. On se retrouve demain, juste après le journal de 9h, et puis d'ici là en podcast sur franceinter.fr. Restez à l'écoute, Laurent Delmas, c'est juste après le journal de 10h.